Alors, une excellente assemblée à chacun, à chacune. Le titre du sermon aujourd'hui, c'est inhabituel comme titre et comme message, mais je pense que ça va répondre à certaines questions et c'est important qu'on ait cette connaissance à partir de la Bible. Le titre, c'est « Jeu d'argent et de hasard ».« Jeu d'argent et de hasard ». Et de plus en plus dans notre société actuellement, si vous remarquez, ça se multiplie, les jeux d'argent et de hasard. Les gens veulent gagner, les gens veulent obtenir quelque chose. Les organismes, les gouvernements se servent de ça pour aller chercher des fonds. Et par tous les moyens possibles, inimaginables, avec des campagnes de publicité qui coûtent des fortunes, mais qui en rapportent encore plus. Alors, ça devient omniprésent dans notre société. Et parfois, les gens se demandent, en tant que chrétien, est-ce qu'on peut participer à ces choses-là? Est-ce qu'on peut toucher à certains de ces jeux-là? Est-ce qu'on peut acheter des billets de loterie, par exemple, ou ces choses-là? Alors, je veux répondre à ça aujourd'hui. Et vous allez voir que la Bible est très claire là-dessus. Mais on a besoin de savoir s'il y a des choses qu'on a à changer, qu'on puisse les corriger, les changer, pour être certain de plaire à Dieu. Et sinon, pour savoir qu'on est dans la bonne direction, puis en même temps pour voir que Dieu est en charge, que ses lois sont justes, et que c'est lui qui prend soin de nous en toutes circonstances. Jeux d'hasard et d'argent. Il y en a plusieurs sortes. Peut-être les plus répandus actuellement, ce sont les loteries, où les gens achètent des billets dans l'espoir de gagner des montants d'argent. Il y a aussi, bien sûr, les vidéos poker, toutes les machines à sous qu'on met dans plusieurs établissements et dans des casinos. Il y a les casinos eux-mêmes. Il y a divers jeux de cartes à l'argent. Et tous les jeux installés dans des casinos. Les bingos, c'est le même principe. Le poker. Parier sur des courses de chevaux. Il y a encore les billets qui sont offerts pour, par exemple, gagner une maison ou gagner une voiture de luxe. Mais pour amasser des fonds, pour soit de la recherche médicale ou soit pour des organismes qui ont besoin de se financer par ça. Comment voir ça? Comment considérer ces choses-là? C'est important qu'on sache. Parce qu'en tant que chrétien, ce qu'on veut faire, là, d'abord, c'est la volonté de Dieu. Hein? Mais on veut comprendre pourquoi. Et vous allez voir, la Bible dit clairement pourquoi. Je vais parler dans le message aujourd'hui surtout des loteries. Mais le même principe s'applique à tous les jeux de hasard et d'argent que je viens de mentionner. C'est le même principe à tous égards. Mais je vais parler surtout des loteries. D'abord, je vais commencer par poser deux ou trois petites questions. Ça va déjà vous mettre sur la piste, je pense. Est-ce qu'un chrétien peut s'adonner à de tels jeux d'argent et de hasard? Est-ce qu'un chrétien peut s'adonner à de tels jeux d'argent et de hasard? Une deuxième question qui vient épauler la première, pour ainsi dire. Dieu est-il un Dieu de chance et de hasard? Là, je vous donne une partie de la réponse déjà dans ma deuxième question. Dieu n'est pas un Dieu de chance et Dieu n'est pas un Dieu de hasard. Troisième question, ça va encore renforcer déjà l'optique que je vous donne. Est-ce que Dieu se sert de ces choses-là pour accomplir son œuvre? On n'a jamais entendu parler de ça. Hein? Est-ce que Dieu se sert de ces choses-là pour récompenser ses serviteurs? Parce que l'esprit humain étant ce qu'il est, parfois on peut être porté à croire ou à se faire croire, si Dieu veut me bénir, puis que j'achète un petit billet de loterie, peut-être qu'il va me permettre de gagner pour me bénir. Est-ce que Dieu fonctionne de cette façon-là? Il n'y a aucun exemple de ça, ça n'existe pas. Est-ce que Dieu peut servir de ces choses-là pour enseigner ses voies, pour enseigner ses lois? Non, absolument pas. Vous savez, essentiellement, tous les jeux légalisés, puis les gouvernements aiment à légaliser ces jeux-là parce qu'ils vont chercher du revenu. Comme ils ont gardé la cigarette et le tabac légalisés, même si les gens meurent de cancer et de plein de maladies terribles, pourquoi? Parce que ça rapporte. Alors ça, c'est le motif au fond. C'est la même chose en ce qui concerne les jeux de hasard et les jeux d'argent. Essentiellement, ces jeux légalisés-là sont simplement un moyen facile de prendre l'argent d'un grand nombre de personnes, souvent des pauvres gens, pour enrichir les caisses du gouvernement. C'est ça que ça veut dire. Pour les casinos, pour tous les jeux légalisés, comme pour toutes les loteries, vous le savez, je pense, le grand gagnant, c'est toujours le même. C'est la maison. Ceux qui vont jouer dans les casinos, c'est la maison qui l'emporte. Ceux qui vont jouer dans les casinos ou dans les loteries ou tout ça, c'est le gouvernement qui l'emporte. Ça, c'est la réalité. Et pour arriver à stimuler l'intérêt des gens pour que ça marche de plus en plus, on excite quoi? La convoitise des gens. C'est ça qu'on fait. Regardez toutes les publicités reliées aux loteries et aux différents jeux, comme ça, comme les casinos et tout ça. On excite la convoitise des gens en leur faisant croire qu'ils vont pouvoir quitter leur vie ordinaire, là, qui semble sans intérêt, qu'ils vont pouvoir ne plus travailler, qu'ils vont pouvoir devenir riches et célèbres, qu'ils vont pouvoir mener une vie de château, une vie de luxe, ou qu'ils vont pouvoir payer leurs dettes et qu'ils vont pouvoir acquérir tout ce que leur cœur pourrait désirer. Pourtant, les statistiques sont là. C'est sûr qu'il y a des gagnants, mais ils sont extrêmement peu nombreux par rapport à tous ceux qui donnent leur avoir pour jouer. On dit que vous avez autant de chances de gagner à la loterie que de vous faire frapper par la foudre. Ça s'équivaut comme chance. Et dans les publicités, on vend aux gens du rêve, de l'irréel. On dit, regardez à quoi va ressembler votre vie si vous gagnez. Et là, on leur montre plein de belles choses, des bateaux, des voyages, des grandes maisons, plein de serviteurs, et ainsi de suite. Une vie artificielle. Et on leur dit, voici ce que vous pouvez gagner si vous jouez. Mais si on y pense comme faux, là, c'est du mensonge. Je pense à une publicité, entre autres, par rapport au fait d'acheter des billets comme ça. L'annonceur dit ceci dans sa publicité. Il dit, le prochain gagnant pourrait être vous. Il s'adresse à des millions de personnes. En partant, c'est faux. Parce que le « vous », c'est le « un » qui est assis devant son appareil de télévision. C'est à lui ou à elle qui parle pour stimuler son intérêt pour aller acheter le billet. Le « vous », ce n'est pas les millions qui sont là. Il y en a juste quelques-uns qui vont l'emporter. Puis qui vont servir ensuite à stimuler les autres. Parce qu'apparemment, ils font signer des papiers aux gens comme de quoi il faut qu'ils fassent partie de la publicité ensuite, comme de quoi ils ont été des gagnants. Et puis là, ça mouche la publicité pour en faire vendre d'autres. Vous savez ce qui pousse les gens à acheter des billets de loterie? Et ça se comprend, la nature humaine étant ce qu'elle est. Les gens pensent que s'ils pouvaient gagner à la loterie, ou au tiercé, ou aux courses, ou enfin quoi que ce soit, des grands montants, toute leur vie pourrait être changée pour le mieux. Mais là, j'ai mis une petite ligne en dessous de pour le mieux ici. C'est sûr que leur vie va être changée. J'en connais des gagnants. Mais leur vie n'a pas été changée pour le mieux. C'est autre chose qui est arrivée. Et les gens pensent que leur vie pourrait être changée pour le mieux et que tous leurs problèmes vont disparaître. Tous leurs problèmes pourraient disparaître si j'étais riche. Si j'étais riche. L'expérience montre que c'est plutôt le contraire, malheureusement, qui se produit. Vous savez, parce que chez les gagnants, ils arrivent avec leurs problèmes pour aller chercher leur prix, puis quand ils ressortent de là, ils repartent avec les mêmes problèmes qu'il y avait. S'il y avait des problèmes d'alcoolisme, il y a encore des problèmes d'alcoolisme. S'il y avait des problèmes de couple, il y a encore des problèmes de couple. S'il y avait des problèmes d'administration qui sont bourrés de dettes parce qu'ils n'ont pas su administrer, il y a encore des problèmes de dettes. C'est une question de temps avant qu'il y ait des dettes plus grandes que celles qu'il y avait, mais qui passent à travers de ce qu'ils ont. Et l'expérience l'a montré clairement. Et il y a d'autres problèmes qui s'ajoutent. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le gagnant ou la gagnante, elle reste le même ou la même après qu'elle a gagné qu'avant. Ça n'a pas amélioré son caractère. Ça n'a pas amélioré sa façon de faire les choses. Tout simplement qu'elle a plus de possibilités. Alors, c'est ça qui arrive. Je me rappelle le cas d'un ami d'enfance. Lui a gagné un grand montant. Et c'est un monsieur simple, chaleureux, une vie pas compliquée. Il avait été élevé pauvrement, gagnait durement sa vie. Lui, il m'avait dit qu'il ne voulait rien changer dans sa vie, qu'il voulait placer son argent. Il s'est bâti une maison raisonnable, pas très, très grande. Il a acheté un plus grand terrain, tout simplement, puis il voulait continuer à travailler. Bon, Vous savez quoi? Sa vie est devenue misérable. Absolument misérable. Vous savez à cause de qui? À cause de ses collègues de travail et de ses amis. Il n'a même pas pu continuer à travailler. Parce qu'au travail, les hommes autour de lui étaient tellement méchants, se moquaient de lui parce qu'il rentrait au travail alors qu'il était fortuné comme ça. Lui, il dit, ben, je veux juste continuer ma vie comme avant. On s'est moqué de lui, on l'a accusé de toutes sortes de choses, en plus de vouloir essayer d'avoir quelque chose de l'autre côté, que c'est devenu insupportable. Il a été obligé de quitter son travail. Et puis, je sais que par après, il a été obligé de vivre un peu comme en reclus, s'il vous plaît, en retrait. Il se mêlait plus aux gens de la région. Il a fait sa petite affaire. C'est encore le cas aujourd'hui. C'est un monsieur avec une certaine sagesse quand même. Alors, il a gardé les choses comme il voulait les garder, mais il a perdu l'entourage. Dans le fond, il est devenu comme prisonnier, si vous voulez, de sa richesse à l'intérieur de ça. Perdu ses amis, perdu ses compagnons de travail et tout ça. Ça, c'est un des fruits qu'on peut voir. La Bible ne parle pas de jouer au poker comme tel. La Bible ne parle pas de loterie comme tel. Mais elle donne les principes clairs et simples qui nous montrent que ces choses-là ne sont pas selon Dieu. Allez à Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, s'il vous plaît. Matthieu, chapitre 6. Versets 31 à 33. Regardez ce que le Christ dit aux chrétiens, à ceux qui le suivent, à ceux qui le connaissent, qui veulent faire sa volonté. « Ne vous inquiétez donc pas, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin, et c'est lui qui répond à nos besoins, selon ce qu'on a besoin d'apprendre. Et si on doit avoir plus, il nous donne plus. Et si on doit ne pas avoir plus maintenant, il retient sa main pour un temps parce qu'on doit apprendre certaines choses. C'est comme ça. Cherchez premièrement le royaume. Quand on est appelé, c'est ce qu'on doit faire, chercher à se préparer pour le royaume et supporter l'œuvre pour que le Christ revienne. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et regardez, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Et quand vous regardez la définition de ce que c'est la justice de Dieu, vous pourrez aller voir dans Psaume 119, Psaume 119, verset 172, David dit, « Tes commandements sont justes. » Autrement dit, les commandements de Dieu, c'est ça la vraie justice. Et c'est ça la justice qu'on doit chercher en même temps que chercher le royaume. Allez dans Exode 20. Exode 20. Déjà, pour ceux qui connaissez votre Bible, vous savez là où je veux vous emmener. Quel commandement nous dit qu'un chrétien ne doit pas jouer à la loterie? Il y a un commandement qu'il dit, mais ça ne parle pas de loterie. Mais il y a un commandement qui dit qu'on ne doit pas jouer à la loterie. C'est le 10e commandement. Lisez Exode 20, verset 17. Tu ne convoiteras point. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, la femme de ton prochain, son serviteur, sa servante, son bœuf, son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Tu ne convoiteras point non plus tous les 5$ ou les 2$ ou les 10$ que tous les pauvres gens, dans l'illusion de gagner quelque chose, ont donné en espérant gagner. Ne convoite pas l'argent des pauvres, pour toi t'enrichir. Voyez-vous? C'est ça. Si Dieu n'a pas jugé bon de me permettre ou de vous permettre d'avoir une grande fortune maintenant, c'est son choix, sa décision. Et il sait d'ailleurs que c'est sans doute pas la meilleure chose qui pourrait nous arriver, c'est peut-être la pire chose qui pourrait nous arriver. Si Dieu nous donne chaque jour ce que nous avons besoin, c'est formidable. Parce que notre but, c'est pas ici. Et c'est pas dans cette vie temporaire. Et ce n'est pas dans une vie de luxe ou d'abondance ou quoi que ce soit. Père, donne-nous notre pain quotidien. Ça, c'est le pain de chaque jour. J'ai été voir la définition de convoitise dans le dictionnaire historique de la langue française. Dictionnaire historique de la langue française, convoitise, désirer avec avidité les richesses, l'argent et le bien d'autrui. Ça décrit vraiment bien le commandement qu'on vient de lire, le 10e commandement. Convoiter, c'est désirer avec avidité les richesses, l'argent ou le bien d'autrui. si je mets ça dans mes mots, c'est espérer prendre tous les petits montants qu'un grand nombre de personnes ont payés pour acheter du rêve. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire exactement. Il existe des billets, ça doit être le cas un peu partout, j'imagine, dans différents pays. On met sur le marché parfois des billets pour faire tirer une maison ou une voiture de luxe. Par exemple, pour venir en aide aux enfants malades, pour venir en aide à la Fondation des sourds ou pour venir en aide à des recherches ou ainsi de suite. Bon, les objectifs de ces organismes-là sont très bien. Ils n'utilisent pas un moyen qui est selon Dieu, mais leurs objectifs est bon. Mais si je prends, moi, un billet de ça, je le prends pourquoi? La première raison, c'est pour gagner la maison ou pour gagner la voiture. C'est ça. C'est ça. Et encore là, on attise l'intérêt de ça. J'ai reçu un téléphone l'autre jour comme ça parce qu'ils prennent à un moment donné les noms dans le bottin téléphonique et ils appellent les gens et disent « Voici, on fait tirer maintenant une voiture de presque 100 000 $ et voici, ça vous coûte seulement tant et puis vous avez tant de chances de gagner. » Puis cette année, c'est encore mieux parce que là, on n'a pas vendu tous nos billets. Donc, vous avez plus de chances que les autres années de gagner la voiture. Alors, on oublie le but de ramasser de l'argent, mais on met l'accent sur ma convoitise. On dit, s'il désire assez obtenir la voiture, il va acheter le billet. Et après ça, ben, il s'arrangera, n'y a qu'un qui va gagner la voiture de toute façon. Vous pouvez être le prochain gagnant. on revient un petit peu à ça. Il y a un test qui parle fort qu'on peut faire. Facile. Vous savez, vous pouvez donner à un organisme qui vient en aide aux petits-enfants malades. Vous pouvez donner, et je peux donner, à un organisme qui fait de la recherche sur des maladies spéciales ou ainsi de suite. Il y a un test qu'on peut faire par rapport à nos vrais motifs. Par exemple, prendre le montant du billet, l'envoyer à l'organisme, mais pas prendre de billet. Là, mon motif, c'est pour aider pour les enfants malades. C'est pas pour gagner la maison. Ou c'est pas pour gagner la voiture. J'ai pas un autre motif derrière ma tête qui vient me déranger et qui vient me rendre coupable, dans le fond, aux yeux de Dieu, de convoiter, de transgresser le 10e commandement, tout en pensant avoir été bon pour d'autres. Si je veux être bon pour d'autres, il faut que je donne, mais sans espérer recevoir. Voyez-vous la différence? Alors, si je prends le montant du billet de la maison qu'on veut me vendre pour venir en aide aux enfants malades, c'est 50 $, 100 $, je l'envoie à l'hôpital ou à cet organisme-là, mais sans prendre de billet, là, je donne, sans espérer recevoir. Et à ce moment-là, je n'applique pas la loi de prendre. J'applique la loi de donner, tout simplement. Parce que vous savez, acheter ce genre de billet-là, ou comme un billet de loterie, pour les serviteurs de Dieu, c'est avoir un double standard. Je dis que je fais confiance à Dieu, mais j'ai mon petit scénario à côté où je peux aller chercher quelque chose à ma guise. Voyez-vous? C'est un double standard. Acheter un billet de loterie, c'est la même chose. Et ça revient même à de l'hypocrisie ou à de la malice, parce que c'est basé sur la convoitise. Alors, je prétends servir Dieu, mais je transgresse une loi par convoitise en espérant, moi, être le fameux gagnant. Je me fais un scénario où je joue à côté de la réalité de Dieu, pour aller obtenir quelque chose, pour appliquer la loi de prendre. Comprenez-vous, devant mon Dieu, je suis à ce moment-là en infraction. Je peux penser bien faire, mais souvent on pense bien faire, mais on est dans l'erreur. Et Dieu nous montre, et c'est important qu'il nous le montre aussi. Parce qu'acheter un billet de loterie comme ça, c'est un moyen que le monde se donne en attisant la convoitise, en disant aux gens, vous allez devenir riches très vite. Et pour ceux dans l'Église qui seraient tentés de faire ça, c'est d'agir à côté de Dieu, sans Dieu, en contournant ses lois, en transgressant ses lois. C'est un moyen détourné, tout en disant se confier à Dieu. Allez à Proverbe 12, verset 2. Proverbe 12, verset 2. Proverbe 12, verset 2. L'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel. Et on est un homme ou une femme de bien si on pratique ses lois, ses voies, si on fait ce que Dieu nous dit de faire. Mais l'Éternel condamne celui qui est plein de malice. Et si je me vends à l'idée que je suis correct avec Dieu en jouant un double jeu comme ça, en disant que je me fie à mon Dieu qui va prendre soin de moi, mais que moi, j'ai mes petites combinaisons à côté pour essayer d'aller gagner quelque chose que je n'ai pas, pour lequel je n'ai pas travaillé ou que je n'ai pas reçu en cadeau. Voyez-vous, je suis fautif et je ne fais pas vraiment confiance à Dieu. Philippiens 4. Philippiens chapitre 4. Il y aurait beaucoup à dire là-dessus, mais je veux rester sur l'essentiel pour que vous ayez une image claire, puis qu'on fasse les choses comme Dieu veut qu'on les fasse, qu'on soit en règle avec lui et que Dieu puisse nous bénir. Parce que parfois, on traîne des fautes comme ça sans s'en rendre compte et ça empêche Dieu de nous bénir. Il faut se mettre en règle avec Dieu. Il faut que Dieu voit que notre cœur est honnête. Philippiens 4 et le verset 6. Ne vous inquiétez de rien. Et quand on prend des billets de loto, c'est parce qu'on s'inquiète un peu. On n'a pas assez d'argent pour arriver, ou on en veut davantage, ou on prétend qu'on va en donner à d'autres, ou ainsi de suite. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications et avec des actions de grâce. Faites confiance à Dieu, dites-lui vos besoins. Même des fois, on peut lui dire nos désirs, parce qu'il y a une différence entre les besoins et les désirs. On peut désirer avoir quelque chose, mais que ce soit pas bien pour nous, ou que ce soit pas souhaitable, pas du tout. Mais Dieu peut faire la part des choses, et parfois Dieu répond à nos désirs, et il nous encourage de cette façon-là. Mais à nos besoins, Dieu va toujours pourvoir, si nous, on est fidèles à lui. Regardez le verset 19, même chapitre Philippiens 4. Paul dit ceci, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. » Est-ce que c'est clair? « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » C'est important qu'on comprenne ces choses-là. Moi, j'ai eu besoin de comprendre ça, parce que dans le passé, ça m'est arrivé d'en acheter des billets de loto. Et j'avais besoin de comprendre ça. Et quand on m'a montré ces choses-là, j'étais content, parce que j'avais quelque chose à changer, j'avais quelque chose à apprendre, je l'ai appris, et maintenant, je le trouve comme précieux. Certains vont dire, oui, mais qu'est-ce qu'il y a de mal à prendre un petit billet de temps en temps en cas de gagner? C'est le même principe, on convoite quand même. Et là, parfois, les gens vont dire, oui, mais Abraham était riche. Oui, Abraham était riche. Abraham était âgé. Abraham a travaillé fort toute sa vie. Il a servi Dieu. Dieu l'a béni. Dieu a permis qu'il y ait beaucoup d'argent dans son cas. Et pour lui, vous regardez toute sa vie, l'argent n'a jamais été un problème. Il n'a jamais convoité l'argent. Puis en passant, il ne l'a pas gagné à la loterie. C'est ça, là. Certains se jouent le tour dans leur esprit en disant, oui, mais Dieu accepte les gens riches, regardez Abraham, regardez Job. Oui, mais Job a travaillé aussi, toute sa vie. Et c'est pas impossible que Job, d'ailleurs, ait été l'architecte de certaines pyramides au Moyen-Orient. Parce qu'on voit par le langage que Dieu lui tient dans le livre de Job. Il parle à Job en termes de construction, en termes d'architecture. Quand il lui dit « Moi, j'ai bâti le monde » et tout ça, il parle un langage que Job peut comprendre. Alors, c'est possible, et on voit dans d'autres documents historiques que c'est pas impossible que Job ait été un des architectes de certaines pyramides là-bas. Donc, ça explique qu'il ait été un homme aussi riche. Mais encore là, Job s'est jamais servi sa richesse à mauvais escient, au contraire. Et pour lui, c'était pas un dieu. Sam Strong nous a dit à quelques reprises, Sam Strong, serviteur de Dieu au temps de la fin, chef de l'Église, il dit, il y a deux seuls moyens, selon Dieu, d'obtenir un gain financier correct, juste. Un, par le travail et les efforts honnêtes. Deux, quand on reçoit un cadeau ou un héritage. Ou, j'ajouterai en parenthèse, si quelqu'un est dans une situation de santé difficile et qu'il y a une aide qui lui arrive, ça, c'est une aide du gouvernement qui lui arrive, c'est compris là-dedans. Quelqu'un qui cherche vraiment la justice de Dieu, qui cherche à vivre selon les lois de Dieu, n'essaie pas d'obtenir quelque chose pour rien, sans effort. Il n'essaie pas de devenir riche, vite, tout d'un coup. Ça, c'est la loi de prendre, ce qui n'est pas à nous, comme j'ai expliqué tantôt. Et allez dans Éphésiens chapitre 4, juste un peu avant. Éphésiens chapitre 4. Quand vous regardez l'exemple du Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Le Christ a toujours cherché à servir. Et en plus, il faut réaliser qu'il y a deux seuls chemins possibles. M. Armstrong en a parlé souvent, ça aussi. Il y a deux voies possibles, celle de prendre et celle de donner. Ça nous aide à définir si nos actions sont bonnes. Quand je fais telle chose, est-ce que j'applique la loi de prendre ou la loi de donner? C'est ça la définition qu'on peut établir. Éphésiens 4 et le verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées, selon ce qu'eux autres ont décidé être bon. C'est ça qu'Adam et Ève ont décidé depuis le début. Les êtres humains ont décidé d'avoir ces moyens-là pour financer leurs choses, basés sur la cupidité, sur la convoitise, ce qui amène beaucoup de problèmes. Ça, c'est la façon humaine de faire les choses. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils ne comprennent pas encore les principes de Dieu. Ils ne sont pas plus mauvais pour autant, pas meilleurs pour autant, mais un jour, ils les comprendront. À cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté, jointe à quoi? À la cupidité. Cupidité, c'est la convoitise. Alors ça, c'est vraiment le point de départ de plusieurs problèmes que les gens ont. Celui qui cherche la justice de Dieu se débarrasse de la convoitise, de la cupidité. On peut demander à Dieu, dire « Dieu, montre-moi, quand j'ai des désirs qui ne sont pas corrects, qui sont des désirs de convoitise, qui ne sont pas conformes à tes lois, montre-moi. Et montre-moi à te faire confiance et à ne pas faire confiance à la chance. Ou bien à faire confiance, appelons les choses par leur nom, à ne pas faire confiance au Dieu chance. » C'est écrit, vous ne servirez pas deux dieux. Si je fais confiance au Dieu Tout-Puissant, c'est à lui que je m'adresse pour avoir tout ce dont j'ai besoin, selon sa volonté, selon sa sagesse et son discernement. C'est ça la différence. Je ne me fie pas au Dieu chance. Vous savez, il n'y a aucune des raisons d'acheter des billets de loterie qui est selon Dieu. Vous n'en trouverez aucune. C'est pas compliqué, vous n'en trouverez aucune. Une des raisons qu'on pourrait invoquer pour acheter des billets, c'est pour avoir beaucoup d'argent d'avance, pour ne pas être inquiète pour nos vieux jours. D'abord, vos vieux jours peuvent venir plus vite que vous pensez. Parce que même si on est jeune, nos vieux jours peuvent venir très rapidement maintenant qu'on est proche du retour de Christ en plus. Alors, bon, pour nos vieux jours, ça ne vaut pas. D'ailleurs, écoutez, quand vous regardez la prière modèle que le Christ nous a donnée comme exemple pour prier. Qu'est-ce qu'il dit? Monsieur Appartient nous en a parlé de ça. Concernant nos besoins personnels, le Christ a dit, demandez à votre Père, dites-lui, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Quotidien, ça c'est aujourd'hui. Il dit, chaque jour suffit sa peine. Mais en ça, on apprend à compter sur Dieu. Et ça, c'est une chose que Dieu veut qu'on apprenne à faire, compter sur lui. Parce que plus on apprend à compter sur lui, plus on s'approche de lui, plus on désire lui plaire, puis plus on va y arriver. Parce que plus il nous voit faire ça, plus il nous donne de son Saint-Esprit. C'est une roue qui tourne dans le bon sens. Alors donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est pas pour dans 10 ans, ou c'est pas d'amasser pour une grande fortune pour les temps difficiles qui vont venir. C'est sûr qu'il faut faire comme la fourmi, comme il est dit dans la Bible, mettre de côté des choses, se préparer, être prudent, être sage, planifier, ça c'est autre chose. Mais ne pas courir après des grands montants en disant « c'est ça qui va être ma sécurité », absolument pas. Vous vous rappelez l'exemple dans la Bible du monsieur qui avait eu des grandes, grandes récoltes, ses granges étaient pleines. Il dit « qu'est-ce que je vais faire, j'en ai tellement ». Il dit « je vais abattre mes greniers, je vais en bâtir des plus grands ». Puis là, je vais en avoir en masse, puis je ne serai pas inquiète, je vais pouvoir mener une vie joyeuse, agréable, une vie de château si vous voulez. Dieu dit « insensé ». Ta vie va être redemandée. Ça va rester à d'autres. Tu fais tout ça pour rien. Apprends à craindre Dieu. Vous savez, par les temps qui courent, vous ne serez pas surpris de ça, l'argent prend de plus en plus d'importance. C'est pas pour rien qu'on voit autant, malheureusement, de dirigeants, soit d'entreprise, de dirigeants politiques même, de dirigeants de sociétés financières, être pris la main dans le sac, monter des stratagèmes pour voler les gens, partir avec les fonds de retraite des employés, puis ainsi de suite, parce que les gens sont rendus avides d'argent. La convoitise est plus grande qu'elle était auparavant. On voyait pas ça il y a 15, 20, 30, 40 ans, 50 ans. La société était différente. Mais maintenant, les gens sont avides d'argent. Et c'est pas moi qui le dis, je le dis en constatant ce qu'il y en est. Mais ça avait été annoncé longtemps d'avance. Si vous regardez ce que l'apôtre Paul a écrit dans 2 Timothée 3, verset 2, vous irez voir 2 Timothée 3, verset 2, Paul dit très bien, il dit « dans les derniers jours », et on est dans les derniers jours, il dit « les hommes seront, quoi? ami de l'argent. Donc, ça indiquait déjà par là qu'au temps de la fin où nous sommes, les gens auraient un attrait particulier, une convoitise beaucoup plus grande, un désir de posséder de l'argent et un désir sans frein de posséder de l'argent, au prix même de voler, de risquer d'avoir des peines de prison ou quoi que ce soit, ou de perdre leur réputation, comme c'est arrivé à des grands personnages dernièrement qui se sont retrouvés derrière les barreaux parce qu'ils avaient volé des millions et dans un cas, des centaines de millions, en parlant de M. Madoff, ils se retrouvent en prison alors qu'ils avaient fait une brillante carrière à la bourse et au niveau des placements. Les gens sont avides d'argent, comme si c'était leur planche de salut. Peut-être que derrière leur esprit, ils voient le monde être en train de s'écrouler. Et qui disent, si moi au moins je peux être le gagnant, je vais me faire gagnant, je vais m'accaparer des richesses pour moi m'en sortir. C'est pas comme ça que ça marche du tout. Quand la tempête va frapper au temps de la fin, elle va frapper tout le monde, elle va frapper partout. Et c'est pas pour rien que la Bible dit que ceux qui auront beaucoup d'argent vont jeter leur argent et leur or dans les rues. Parce que l'argent et l'or ne se mangent pas. Ça apporte pas de pain. Alors, ces situations-là vont venir. Et regardez la belle promesse que Dieu nous fait. Hébreux 13. Hébreux chapitre 13. Ça, il ne faut pas l'oublier. Hébreux 13, verset 5. « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, comme Paul avait annoncé que ce serait dans les derniers temps. » Il faut respecter l'argent, c'est un moyen d'échange, et on a besoin d'en avoir, on a besoin d'en gagner pour vivre, pour payer nos dîmes, et ainsi de suite, faire les offrandes, rendre service, on a besoin, mais il faut que ça reste dans sa limite, dans sa proportion. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Ça, c'est dans le sens de ne pas convoiter l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Demandez à Dieu de vous donner ce que vous avez, pas moins, pas plus. C'est-à-dire ce que vous avez besoin, pardon. Pas moins, pas plus. Lui sait. Moi, en réalité, en tant qu'être humain, je ne sais pas vraiment ce que j'ai besoin. Et dans mon cœur tortueux d'être humain, je pourrais en vouloir pas mal davantage qu'est normal d'en vouloir. Parce que la nature humaine veut posséder, elle veut prendre. Alors, Paul dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, regardez bien la promesse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Il parle ici à ses enfants fidèles, bien sûr. 1 Timothée chapitre 6. Et nous allons lire le verset 10. Concernant cette société où plusieurs courent après l'argent dans un désir d'avidité. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Ici, on parle de l'amour effréné, l'avidité, la convoitise pour l'argent. Ça, c'est une racine des maux. Aimer l'argent pour ce qu'elle est utile, parce qu'elle nous permet de vivre, ça, c'est une chose. Mais aimer l'argent pour en posséder avec avidité, pour convoiter, ça, ce n'est pas bien. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Vous savez, il y a un prix à tout, hein? Tout vient avec un prix. Il n'y a rien de gratuit. Même ce qui nous semble être gratuit, ça vient avec un prix. Y compris le fait de gagner des millions à la loterie. Ça vient aussi avec un prix. Parce que la richesse soudaine entraîne automatiquement, comme je l'ai vu dans la vie de certains amis, des grands bouleversements dans la vie auxquels on n'est pas préparé. Et qui sont loin d'être le jardin de roses qu'on pensait être avant de gagner, qu'on pensait pouvoir atteindre avant qu'on sache vraiment ce que c'est que gagner à la loterie. Rappelez-vous simplement le cas de la famille de Jean-Guy Lavigueur, au Québec, ici. Ce monsieur-là a gagné un gros lot de plusieurs millions de dollars il y a plusieurs années. C'est une famille modeste. Au moment où le monsieur a gagné, il venait de perdre son emploi, il venait de perdre son épouse. C'est un homme qui est analphabète, qui ne savait pas écrire. Un homme très, très simple, avec une famille. Et là, la saga malheureuse a commencé pour cette famille-là. La famille a été pourchassée par des journalistes avides de sensations. Puis là où il n'y avait pas de réalité, on l'a forcé la réalité pour avoir des nouvelles à sensation, justement. dans la famille. On les a passés au crible de façon incroyable. La famille a été dévastée par la gloire soudaine qui leur est tombée dessus sans aucune préparation. La famille s'est déchirée jusque devant les tribunaux. Il y a une des filles même qui a attaqué son père dans les tribunaux. Il y a eu suicide d'un des garçons. Ça a été une saga, je passe beaucoup de détails là. Et on a noirci la réputation du monsieur. On l'a fait passer pour ce qu'il n'était pas. Les gens, les journalistes le pressaient de questions puis lui faisaient dire toutes sortes de choses. Puis après, on donnait une image qui n'était pas exacte de ce pauvre homme qui était dépassé par les événements, tout simplement. C'est ce qui est arrivé. Ça démontre un peu, peut-être à l'extrême, mais la réalité des fruits mauvais qui viennent de ce système-là. Les fruits mauvais qui viennent de ce système-là. Eux autres, leur vie a été brisée. Leur réputation a été salie. Il y a eu perte de vie, même, à l'intérieur de tout ça, et des divisions horribles. Quand je vous disais tantôt que tout a un prix, tout a un prix, même le fait de remporter un gros lot à la loterie et d'avoir une richesse soudaine. Il n'y a aucune raison d'acheter des billets de loterie. Une des raisons qu'on peut invoquer, c'est pour acquérir des richesses. On a regardé une tantôt pour avoir une vie plus facile dans le futur, pour avoir un fonds de pension. Non, ça ne peut pas être ça. On se fie à Dieu chaque jour et que Dieu nous donne ce qu'on a besoin. Une autre raison, c'est pour acquérir des richesses, pour acquérir des choses. Mais encore là, c'est la loi de prendre. Et je vais vous donner un exemple qui est vraiment éloquent. Allez dans Ecclésiaste 2. Tout de suite, vous savez de qui je veux vous parler. Et l'exemple dans Ecclésiaste 2, il est fort. Il est extrêmement fort. De quelqu'un qui a eu plus de richesses que n'importe quel gagnant moderne à la loterie. Ecclésiaste, chapitre 2, c'est l'exemple du roi Salomon. Ça a été écrit pour nous, pour nous avertir, pour nous servir de leçon. Mais regardez ce que Salomon a fait. Salomon n'a pas fait seulement des bons coups, vous savez. Salomon avait une grande sagesse, Dieu lui a donné une grande sagesse. Mais Salomon a péché. Salomon a fait des choses qui n'étaient pas correctes aux yeux de Dieu. Salomon en a payé le prix aussi. Il y a ça dans l'exemple qu'il faut apprendre. Alors, Ecclésiaste 2, commençons au verset 1. « J'ai dit à mon cœur, allons, je t'éprouverai par la joie, et tu goûteras le bonheur. » Et voici, c'est encore là une vanité. Une vanité, ça veut dire c'est du vin, c'est rien. Ça mène nulle part, ça ne nourrit pas, ça ne suffit pas pour nous rendre heureux. C'est ça, une vanité. « J'ai dit du rire insensé et de la joie, à quoi sert-elle? » Je résolus en mon cœur de livrer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse, et de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je voie ce qu'il est bon pour les fils de l'homme de faire sous les cieux pendant le nombre des jours de leur vie. Autrement dit, il dit, je vais faire toutes sortes d'expériences pour voir c'est quoi vraiment la vie, qu'est-ce qui apporte le bonheur. Il dit, j'ai une grande sagesse, je vais essayer de l'utiliser pour prouver ces choses-là pour me démontrer à moi-même ce qu'il y en est. J'exécutais de grands ouvrages. Bon, voici, il y avait de l'argent en masse. Il dit, j'exécutais de grands ouvrages. Je me bâtis des maisons. Je me plantai des vignes. Je me fis des jardins et des vergers. J'y plantai des arbres fruitiers de toute espèce. Je me créai des étangs pour arroser la forêt où croissent les arbres. J'imagine que ça devait être un petit peu comme le château de Versailles, si vous voulez, avec des immenses jardins, des arbres spéciaux, des animaux spéciaux et ainsi de suite. Il y avait une fortune colossale, je pense que comme aucun être humain n'a eu par la suite sur la face de la terre. J'achetai des serviteurs et des servantes. J'eus leurs enfants nés dans la maison. Je possédai des troupeaux de bœufs, de brebis, plus que tous ceux qui avaient été avant moi dans Jérusalem. Et regardez, je m'amassai de l'argent et de l'or, les richesses des rois des provinces. Déjà, c'est une faute. Déjà, c'est un péché. J'ai lu en faisant mon étude cette semaine dans Deutéronome que Dieu avait dit, quand un roi viendra sur le trône, il prendra le livre de la loi. Il l'écrira mot à mot lui-même dans un livre. Et il ne faudra pas qu'il se fasse de grands amas d'or et d'argent. Et ici, Salomon s'est fait de grands amas d'or et d'argent. Je me procurais des chanteurs, des chanteuses, des délices et les délices des fils de l'homme, des femmes en grand nombre, alors que Dieu avait dit aussi, bon, vous aurez une seule épouse. Je devins plus grand que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Et même ma sagesse demeura avec moi. Oui, Dieu, il a laissé la sagesse qu'il avait donnée. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout le travail que je faisais, et c'est la part qui m'en est revenue. Puis, après qu'il a eu fait tout ça, après qu'il a eu dépensé tant d'argent, après qu'il a fait toutes ses expériences, puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Et il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Et je devrais ajouter à Salomon, il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil si on ne sert pas Dieu en premier et si on ne sert pas Dieu seul. C'est ça. Et ici, Salomon ne servait pas Dieu en premier et ne servait pas Dieu seul. En fait, tout le travail que Salomon a fait, ça a été pour satisfaire ses désirs. Regardez bien ça, ça a été pour satisfaire ses désirs. Vous relirez le contexte. Et ça, c'est la loi de prendre, et ce n'est pas la loi de servir. Nulle part, vous voyez Salomon qui dit, « J'ai des grandes richesses, je vais en faire bénéficier mon peuple, ou je vais prendre soin du pauvre, du malheureux, de l'orphelin. » Non, il dit, « Je me suis fait plein d'expériences pour moi, je me suis bâti plein de choses pour moi. » Ça, c'était des transgressions de la loi de Dieu, c'était des convoitises. Ou d'autres vont dire, « Bon, moi, je vais prendre quelques billets de loterie, parce que si je gagne, je vais payer mes dettes. » Est-ce que c'est ce que Dieu veut que vous fassiez? Est-ce que vous pensez que Dieu va vous apprendre à administrer en vous donnant un grand montant d'argent d'un coup sec, alors que vous vous êtes mis dans des dettes depuis des années, que vous n'avez pas pris la peine de le supplier et d'apprendre comment administrer les choses, de limiter vos désirs et vos passions pour prendre des décisions sages? Pensez-vous que Dieu va vous enseigner en vous donnant un grand montant d'argent et en disant « Allez-y, vous allez être pire qu'après. » Il le sait. Alors, on ne peut pas dire « Je vais acheter un billet pour payer mes dettes. » L'expérience a été faite. J'ai vu des interviews de personnes qui ont gagné des grands montants à la loterie, qui n'avaient pas appris à administrer avant, puis qui ne savaient pas plus administrer après. Ceux qui avaient des dettes avant de gagner de gros montants à la loterie se sont retrouvés, dans la plupart des cas que j'ai vus, avec des grandes dettes après, plus grandes qu'avant, parce qu'il y avait plus d'argent. Ils se sont endettés plus qu'avant parce qu'ils savaient très bien faire une chose. Ils savaient très bien s'endetter. Puis de dépenser au-delà de ce qu'ils avaient, ils l'avaient fait toute leur vie. Alors, ils ont fait la même chose, exactement. Ça a juste pris un petit peu plus de temps pour venir à bout de passer à travers la cagnotte. Parce que les gens avaient le même caractère ou le même manque de caractère après avoir gagné à la loterie qu'avant. Et ils avaient le même manque de connaissances en administration après avoir gagné la loterie qu'avant. D'autres vont dire, je prends des billets de temps en temps pour donner un peu plus aux gens. Ah oui? Pour donner un peu plus à l'Église. Là encore, c'est une raison détournée. Si Dieu veut que vous ayez, vous allez voir, les choses vont se produire comme elles doivent se produire, mais pas par la loterie et pas par ces choses-là. Et parfois, indirectement, le cœur humain étant tortueux, étant ce qu'il est, c'est qu'on a un désir, dans le fond, de se donner une sorte de pouvoir. Parce que celui qui a de l'argent a un pouvoir. Et certains se servent mal du pouvoir qu'ils ont lorsqu'ils ont de l'argent. Même en ayant peu d'argent, certains ont peu d'argent, mais se servent mal du pouvoir que donne l'argent sur les autres autour d'eux, sur le fait d'imposer leur volonté ou ainsi de suite. Il y a des grandes leçons à apprendre là-dedans. Celui qui gagne, par exemple, à la loterie, il fait quoi avec? Tout le monde le sait autour. Ses amis le savent, ses parents le savent. Et là, il devient la cible de beaucoup de monde. Il fait quoi? Il garde tout son argent pour lui? Qu'est-ce qu'on va dire de lui? Déjà, les yeux vont être changés. La perception des autres autour va être changée par rapport à la personne qui a gagné. Il a tout cet argent-là, il ne donne rien à moi, qui suis son parent, son ami, son voisin, qui lui est déjà rendu service, toutes les raisons imaginables. Là. Et là commence la saga et la difficulté, je peux vous le dire. Ça commence exactement là, autour. Donner à qui? Et donner comment? Si je donne un grand montant à un tel de mes frères, puis j'en donne moins aux autres, ou que si je donne un montant à un tel de mes amis que je sais qu'il a des grands besoins, les autres qui disent « je me suis autant ton ami, mais qui n'ont pas de besoin » vont dire « ben il est injuste ». Alors, j'en sors pas. Je ne suis plus gagnant. J'ai été gagnant, soi-disant, une fois. quand j'ai remporté le montant, mais après, je suis plus gagnant avec les gens autour. Il y a quelques années, il y a une personne au Missouri qui a gagné 18 millions. Personne très généreuse. Elle, justement, cette personne-là voulait donner. Elle a donné. Elle est dans la rue. Elle a donné à plein d'organisations très variées, à toutes sortes de causes. Ça a pris 8 ans avant qu'elle fasse faillite. Elle a fait faillite. C'était la même personne après qu'avant. Et j'ai noté sa déclaration ici. Elle dit « Beaucoup de gens comme moi ne savent pas comment faire face à l'argent. » Elle ne savait pas comment faire face à l'argent. Elle a tout perdu. Ça s'est en allé. Pensez-vous qu'elle était mieux après qu'avant? Après avoir perdu ses amis, après avoir créé un paquet de problèmes, avoir été isolée, et sa vie était plus misérable après qu'avant. Proverbe 13, verset 11. Proverbe 13, verset 11. La richesse mal acquise et une richesse qu'on obtient par la loterie ou par des jeux d'argent, c'est mal acquis parce que c'est acquis en transgressant le 10e commandement qui est la convoitise. Okay? La richesse mal acquise diminue. Ça fond au soleil, parce qu'on n'est pas prêt pour ça. Même si nos intentions étaient bonnes, la richesse mal acquise diminue. Mais regardez le principe que Dieu nous montre. Mais celui qui amasse peu à peu, l'augmente. Des fois, ça prend une vie pour venir à bout d'avoir un certain pécule, ou une certaine aisance, ou au moins être un petit peu à l'aise, ou respirer un peu mieux, avoir... Éclairer presque l'hypothèque ou ces choses-là. Ça prend des années, mais on est content. On l'a eu, on a travaillé, on a fait attention. Celui qui amasse peu à peu est vraiment béni. Vous savez, les statistiques, c'est frappant, concernant les gagnants à la loterie. Les statistiques démontrent qu'il y a un gagnant, plus ou moins un gagnant, sur 3 qui font faillite au bout de 5 ans, à l'intérieur des 5 premières années. Un tiers, presque 30 % des gagnants de la loterie qui font faillite au bout de 5 ans. Et c'est pas tout. Parce que là, quand la personne gagne, j'entrerai pas dans tout le détail, mais il y a toutes sortes de réactions émotives, psychologiques dans la situation. Quand la personne gagne un gros montant, sans s'en rendre compte, elle perd le sens de la réalité. Elle se retrouve dans une tour d'ivoire. Elle perd le sens de la réalité. C'est quoi la grosseur du montant? C'est quoi une grosse dépense, une petite dépense? Quand vous avez fait attention toute votre vie à des choses, et ensuite que 1 000 $ ça n'a plus d'importance, ou 20 000 ou 1 million, ça n'a plus d'importance, ça perd la valeur des choses et est déséquilibrée dans votre esprit. On se lance parfois dans des dépenses excessives. Et ce que beaucoup font, j'ai regardé des études là-dessus, c'est que les gens ajoutent des fardeaux financiers plus lourds que ce qu'ils ont gagné. Les gens vont s'acheter des maisons qui coûtent des fortunes sans réaliser comment ça va coûter de taxes, d'assurance, d'entretien. Là, ça va prendre du personnel pour en avoir soin, de gardiens, de systèmes de sécurité et ainsi de suite. On achète ça et après, on voit comment ça coûte. Voyez-vous? Parce qu'on n'a pas appris avant à administrer. Et dans, je dirais, 99 % des cas, j'imagine peut-être 100 % des cas, la vie privée, elle est bouleversée, elle est atrophiée et parfois elle est vraiment écrasée, comme on a vu dans le cas de la famille Lavigueur, puis qu'on a vu dans le cas de d'autres dans le passé aussi. Et là, les gens se mettent à être automatiquement pourchassés par tous les conseillers imaginables en placement, par tous les vendeurs d'assurance et vendeurs de tout ce que vous voulez. Les gens sont pourchassés par les parents, par les connaissances, par les amis, et on ne sait plus qui est qui. Qui est vraiment mon ami et qui ne l'est plus? Qui s'intéresse à moi pour moi-même ou pour ce que je représente de signe de pièce à ses yeux? Et là, il y a des problèmes et des douleurs émotives énormes parce qu'on ne sait plus qui est qui dans notre entourage. Et la personne s'en retrouve isolée. C'est vraiment malheureux. Et il y a beaucoup de gens qui souffrent de dépression suite à ça. À cause de tout ce méli-mélo là, où on ne sait plus qui est qui, à qui faire confiance, qui nous aime vraiment, et qui a vraiment intérêt pour nous, ou a son intérêt à venir chercher des choses. Beaucoup de gens ont des dépressions. Je dirais à ne plus savoir qui vraiment les aime. Et même là, le doute s'installe sur les motifs de ceux qui pourraient les aimer vraiment. Parce qu'on ne sait plus. Ça vient complètement mêlé. Regardez Proverbe 10, juste un peu avant où on était. Proverbe 10, on va voir ici qu'il n'y a aucun effet négatif, par contre, aux bénédictions de Dieu. Proverbe 10 et le verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Voyez-vous d'où ça vient, la richesse? Et si la richesse physique ou matériel a à venir, elle doit venir de Dieu et non pas via une loterie ou un jeu d'argent ou une chose comme ça. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et regardez, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Aucun chagrin. Quand la bénédiction vient de Dieu, il n'y a pas d'effet secondaire négatif. Il n'y a pas de douleur qui découle de ça. C'est une bénédiction mur à mur, au complet, et c'est bon de A à Z. Et c'est juste pour nous. C'est ce qui nous convenait parce que c'est ce que Dieu a décidé qu'on avait besoin et c'est ce qu'il nous a donné. Proverbe 19, juste un peu plus loin. Il y a des effets négatifs, par contre, pour les gagnants. Proverbe 19 et le début du verset 4. La richesse procure un grand nombre d'amis. La richesse procure un grand nombre d'amis. Ça, c'est automatique. Parce que, comme je disais, les yeux des autres changent envers vous à ce moment-là, lorsque vous êtes un homme ou une femme très riche. Il y a un homme qui l'a vécu à ses dépens, ça, en Pennsylvanie. Son nom, c'est William Post. M. Post a gagné 16 millions. C'est de l'argent. 16 millions, c'est énorme. Il y a une ex-petite amie qui s'est rapprochée de lui. Elle l'avait quitté, mais là, elle est revenue parce qu'il était devenu un homme intéressant. L'ex-petite amie est revenue et avec les proches de M. Post, ils l'ont tellement tourmenté, ils l'ont tellement pressionné qu'il a fini par tout partager avec eux puis prendre une série de mauvaises décisions, de sorte que pas longtemps après, M. Post vivait sur l'assistance sociale. 16 millions assistance sociale. Les yeux de ceux autour ont changé par rapport à lui. On s'est jeté sur lui, on l'a dépouillé, on l'a pressionné jusqu'à temps qu'il lâche le morceau et finalement qu'il prenne des mauvaises décisions, qu'il se décourage et qu'il perde tout. C'est pas les fruits de Dieu, ça. C'est pas la bénédiction qui vient avec la richesse que Dieu peut donner ou les épreuves parfois que Dieu peut donner qui sont des fois une richesse insoupçonnée qui nous amène à nous approcher de lui et à nous préparer des grandes choses à venir. Plusieurs gagnants de la loto, j'ai vu ça en faisant ma recherche, ont fait la même déclaration que je vous donne maintenant. C'est la pire chose qui ne me soit jamais arrivée. Ça, c'est surprenant. Parce que, je sais, en tant qu'être humain, on se dit tout le temps, moi, ça ne m'arrivera pas. Moi, ça ne sera pas comme ça. Moi, ça ne sera pas. Attention. Moi, je suis un être humain comme les autres et vous aussi. Et si ça vous arrivait, vous passeriez exactement par la même genre de situation. Alors, plusieurs gagnants ont déclaré « c'est la pire chose qui ne me soit jamais arrivée ». Et ceux qui ont déclaré ça ajoutaient qu'ils ont perdu leurs amis, leurs conjoints dans bien des cas, des membres de leur famille, ils ont perdu la paix d'esprit. Et ils sont devenus, comme mon ami que je vous parlais tantôt, prisonniers de sa richesse, plus capables d'avoir grand contact avec les gens de l'extérieur. Vous savez, comme je disais, chacun joue à la loterie dans le monde et est porté à se dire « moi, si je gagne, ce ne sera pas pareil ». Les gens lisent la même chose que j'ai lu, moi, dans les journaux, comme conséquence. Mais ils ne le voient pas. Ils disent, non, moi, ça ne sera pas pareil. Moi, ça ne sera pas pareil. Vous savez, le péché, c'est la folie. Dieu dit que le péché, c'est la folie. C'est la folie. Alors, si on convoite comme ça, la convoitise nous change le jugement et nous fait penser que dans notre cas, ça n'arrivera pas. Parce que moi, je suis meilleur que les autres. Moi, je vais être capable de passer à travers. Ça, c'est le péché de la convoitise qui nous fait voir les choses de façon irréelle, de façon anormale. Les loteries, comme les jeux d'hasard et les jeux d'argent, c'est une méthode mauvaise. C'est pas une méthode selon Dieu. On la voit nulle part dans la Bible. Et les fruits de ça sont pas des bons fruits. C'est l'observance des lois divines qui procure la paix d'esprit, la joie véritable et qui répond à nos besoins, qui nous aide à développer le caractère juste. C'est l'observance des lois divines qui nous prépare à recevoir les vraies richesses, celles qui sont véritables et qui vont durer pour toujours. même sur le plan matériel, parce qu'on aura des grands domaines à administrer. Ce que Salomon a eu, ça sera relativement petit à côté de ce que vous allez avoir à administrer et à gérer lorsque vous serez des êtres spirituels, si vous êtes fidèles jusqu'au bout. Vous savez, pour les chrétiens, là, il y a une seule combinaison gagnante. C'est une combinaison à 10 chiffres. C'est une combinaison à 10 chiffres. Ce sont les 10 commandements de Dieu, tout simplement. Ce sont les lois de Dieu qui comprend celle de ne pas convoiter, tout simplement. Ça, c'est la seule combinaison valable et c'est la combinaison gagnante. Je pose encore une question. Est-ce qu'on pourrait utiliser un système basé sur la transgression d'un des commandements de Dieu, comme on a vu, puis penser faire la volonté de Dieu? Je reviens à ça. Ça revient un peu aux questions du début. Est-ce qu'on pourrait transgresser une loi de Dieu, puis penser plaire à Dieu, penser faire sa volonté? Absolument pas. C'est absolument contradictoire. Vous irez voir dans Proverbe 16, verset 8. Je ne m'y reporterai pas, mais Proverbe 16, verset 8 dit ceci. « Mieux vaut peu avec la justice de Dieu. » Qu'est-ce qu'on a vu tantôt? Cherchez premièrement le royaume et la justice, et tout le reste va vous être donné, selon la volonté de Dieu, de bonne façon. « Mieux vaut peu avec la justice que de grands revenus avec l'injustice, avec la transgression d'une ou plusieurs des lois de Dieu. » C'est de Dieu que doivent nous venir tout ce que lui juge nécessaire à notre vie et à notre salut. 1 Chronique 29. Ici, on va voir la prière de David. 1 Chronique 29, versets 11 et 12. C'est intéressant, David a adressé cette prière-là à Dieu. Ça nous montre la perspective qu'on doit avoir par rapport aux richesses. Ça vient de Dieu, tout nous vient de Dieu. Verset 11. « À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse, voyez-vous, et la gloire. Et la vraie richesse et la vraie gloire vont nous être données au retour de Christ, à ceux à qui il va être confié de gérer l'administration de la terre, la gouvernance du monde, sous le Christ. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. Et c'est dans ta main que sont la force et la puissance, et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. » Et ça, c'est une promesse pour vous et pour moi, si nous sommes fidèles. Il y en a un qui a écrit, vous irez voir dans Proverbe 30, verset 8-9. Proverbe 30, verset 8-9, celui qui a écrit ce psaume a eu la sagesse de demander ceci à Dieu. Il dit à Dieu, « Ne m'accorde ni richesse, ni pauvreté. » De peur que si je suis trop riche, que je t'oublie, ou que si je suis trop pauvre, que je sois porté à voler. Ne m'accorde ni richesse, ni pauvreté. Donne-moi ce que j'ai besoin, donc mon pain quotidien, et montre-moi surtout le chemin de la vie éternelle. Vous savez, si un chrétien joue à la loterie, ou aux autres jeux de hasard, comme ça, automatiquement, sans que la personne s'en rende compte, ça diminue sa confiance en Dieu. Comprenez pourquoi? Ça diminue sa confiance en Dieu. Parce qu'elle n'est pas entièrement à Dieu. Elle est au Dieu loterie, ou au Dieu chance, ou au Dieu hasard. Sans que la personne s'en rende compte, elle vient de se couper de Dieu d'une façon importante. Le chrétien qui joue à la loterie diminue sa confiance en Dieu. Peut-être qu'il compte sur Dieu, pareil, et ça lui donne une bonne bouche, ça lui donne une bonne impression. Il dit, je compte sur Dieu, je connais Dieu, j'obéis au sabbat, je paye mes dîmes, je fais ce que j'ai à faire. Mais en même temps, il compte sur le hasard pour aller chercher quelque chose de plus. À côté de Dieu, disons, ou à côté des lois de Dieu, surtout comme on a vu que c'est une transgression. Et sans le réaliser, ce chrétien-là a encore un deuxième Dieu dans sa vie. Aussi simple que ça. Le Dieu argent, le Dieu hasard, le Dieu convoitise. Appelez-les comme vous voulez, sans s'en rendre compte. Et de ça, on doit se repentir. Comme j'ai dû dans le passé me repentir, parce que j'en ai déjà acheté. Et quand j'ai compris le principe, j'ai arrêté, ça a été terminé. Et il faut que ce soit comme ça dans nos vies. Et le chrétien qui fait ça, son cœur n'est plus entièrement avec Dieu. Le chrétien qui achète des billets de loterie. Allez à Ésaïe 60, Ésaïe chapitre 60, s'il vous plaît. un chapitre tellement encourageant qui décrit les choses qui s'en viennent pour les serviteurs fidèles de Dieu. À son retour prochain, le Christ va distribuer les vraies richesses, va accorder la vie éternelle à ceux qui auront été fidèles. Il va distribuer les vraies richesses à ses serviteurs. Ésaïe 60, verset 5. « Tu tressailliras alors et tu te réjouiras, et ton cœur bondira et se dilatera, quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. » Versets 10 et 11. Tes portes seront toujours ouvertes, elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi, quoi? Le trésor des nations et leur roi avec leur suite. Verset 18. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravage, ni de ruine dans ton territoire. Il n'y aura plus de casino où les gens se suicident en arrière du casino. Fait qui est caché par les gouvernements pour ne pas nuire à leurs recettes. Et on cache aussi toutes les conséquences de ces jeux de hasard-là et de ces maisons de jeux-là, les familles brisées, les faillites qui arrivent, la criminalité qui augmente. Ici, j'avais un article justement qui disait que juste au Québec seulement, ça coûte quelques milliards par année les effets négatifs des seuls casinos. Les seuls casinos. En termes de faillite personnelle. On dit que près des casinos, le nombre de faillites personnelles est deux fois plus élevé là où sont situés les casinos. Et là aussi, il y a augmentation de la criminalité et fraude contre les employeurs. Parce que les gens qui sont proches des casinos et qui sont employés trouvent toutes sortes de stratagèmes pour aller jouer quand même. Ils deviennent mordus ou accros des jeux et il y a des conséquences terribles. Sans compter les foyers brisés, les familles divisées, les gens qui n'arrivent plus, les gens qui perdent leur emploi, qui perdent tout. Sans compter ce que coûte à la société chaque année les joueurs pathologiques qu'on appelle. Et le gouvernement continue à multiplier les machines à sous un peu partout pour aller chercher du revenu. C'est de l'hypocrisie dans le fond. Parce que d'un côté, on dit c'est dommage que les gens souffrent comme ça, on cache le phénomène, on paie avec les taxes des gens pour réhabiliter des gens, pour venir en aide à certains. Et de l'autre côté, on laisse continuer ça pour empocher l'autre côté. Ce sont les gouvernements humains, c'est pas le gouvernement de Dieu. Ça va être différent dans le monde à venir, absolument différent. Allez maintenant à psaume 112, s'il vous plaît. On va terminer avec le psaume 112. Psaume 112. Versets 1 et 2. Heureux l'homme qui craint l'Éternel. On sait ce que c'est craindre l'Éternel. C'est marcher dans ses voies. Mettre de côté puis abandonner. Se libérer de tout ce qui est contraire à sa loi. Puisqu'on a de la misère à éliminer, le supplier, jeûner, prier, insister pour qu'il nous donne la force de le faire, de changer. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements, prendre plaisir à lui faire confiance, à se fier à lui. Et là vient la paix d'esprit. Et regardez après, sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Et Dieu nous considère comme un homme et une femme droits. Lorsqu'on met en application ces lois, y compris le 10e commandement, et qu'on ne participe pas à ces jeux de hasard et d'argent. Versets 5 à 7, en terminant. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice. Quelle justice? Pas la nôtre, celle de Dieu. Car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure toujours. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Et nous entrons dans une période de très mauvaises nouvelles. Si nous appliquons les lois de Dieu avec son aide au mieux et que nous développons son caractère, nous n'avons pas à craindre les mauvaises nouvelles. L'inverse est également vrai, par contre. Mais si nous nous appliquons à servir Dieu, à vivre selon ses voies, nous n'avons pas à craindre les mauvaises nouvelles. Et regardez ce qui arrive, son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Mettons tout notre espoir dans le Tout-Puissant qui veut nous bénir, qui veut nous emmener à terme. Faisons-lui entière confiance en toute chose, lui qui pourvoit pour nous en tout.